Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse et le Nouvelliste. Au programme, c'est toujours aussi honteux. La fabuleuse histoire d'emploi de Youssef et d'Arnaud. Et il est temps que le Canada finance le traitement avancé du diabète. Bonne écoute.
C'est toujours aussi honteux, un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 15 février 2023 dans la presse. Vous pensez que le Québec vit une crise du logement? Vous avez raison. Cette crise du logement, dans le sud du Québec, est toutefois sans commune mesure avec celle vécue dans le nord par les Inuits au Nunavik. Au Nunavik, 47% des Inuits vivent dans des logements surpeuplés, par rapport à 7% pour l'ensemble du Québec. C'est 7 fois pire. Le logement est assurément l'un des enjeux sociaux les plus importants au Nunavik. Il n'est pas rare que 5, 6, 7, 8 personnes vivent dans un 4,5. Si l'un d'entre eux a des problèmes sociaux, cela a des répercussions sur toute la famille. C'est loin d'être idéal pour élever des enfants et favoriser leur apprentissage scolaire. Ottawa et Québec ont construit 860 logements sociaux au Nunavik sur 6 ans, entre 2017 et 2022. Québec s'occupe ensuite du maintien du parc immobilier qui coûte plus cher sur 25 ans que les coûts de construction. Malgré tout, la situation du logement au Nunavik est à peine améliorée. En 2015, il manquait 1 000 logements sociaux au Nunavik, selon l'Office municipal d'habitation Kativik. Selon la dernière estimation, en 2021, il en manque 893. Presque du pareil au même. Parce qu'on n'a pas assez construit de logements et parce que les Inuits ont un taux de natalité 2 fois plus élevé que la moyenne québécoise. Mince consolation, le pourcentage des Inuits qui vivent dans des logements surpeuplés est passé de 62 % en 2006 à 47 % en 2021. C'est encore tragiquement trop élevé. Le problème du logement dans le Grand Nord ne date pas d'hier. Il manque de logements au Nunavik depuis les années 1990, quand Ottawa a cessé d'en financer la construction pendant 5 ans. On n'a jamais rattrapé le retard, et il faut maintenant le faire. Nous avons la responsabilité morale, en discutant de nation à nation, de nous assurer que les Inuits vivent dans des logements décents. La solution la plus simple, construire 900 logements sociaux supplémentaires à court terme et ajuster ensuite le parc immobilier aux prévisions démographiques. Ça réglerait une partie du problème, mais il y a moyen de faire mieux. Au Nunavik, les Inuits résident à 98 % dans des logements sociaux construits par l'État qui en assure le maintien et la propriété. Les Inuits paient un loyer en fonction de leurs revenus. De nombreux Inuits, qui font de bons salaires et en ont les moyens, aimeraient posséder leur maison au Nunavik. Comme vous, à Montréal, Sept-Îles ou Val-d'Or. Ce n'est pas vraiment possible pour eux actuellement. Construire une maison dans le Grand Nord coûte beaucoup plus cher que dans le Sud. Sans subvention gouvernementale, on n'y arrive tout simplement pas. Il existe un programme de subvention, mais la caisse est vide et il y a une liste d'attente. Il faut remplir cette caisse. Les logements privés et les logements sociaux sont des vases communicants. Si une famille inuite se fait construire une maison qui lui appartient, elle libère son logement social géré par l'État. La propriété privée ne réglera pas tout. Au final, il faudra sans doute construire des centaines de logements sociaux pour rattraper le manque à gagner de logements au Nunavik. La question est de déterminer le dosage entre les différents types de logements. Le gouvernement Legault compte justement organiser, d'ici quelques mois, une rencontre pour brasser des idées et trouver des solutions novatrices à la crise du logement au Nunavik. On souhaite qu'elles permettent à toutes les parties impliquées, Québec, Ottawa, les communautés inuites, la société Makivik, des entrepreneurs, de convenir d'un plan rapide et efficace pour combler le manque à gagner de 900 logements. Il faut construire mieux, plus vite, et impliquer davantage de main-d'œuvre inuite. La société Makivik, qui appartient aux communautés inuites, doit être au centre des projets. Question de maximiser les retombées économiques pour les Inuits. Il y a urgence d'agir. Alors que vous lisez ces lignes, la moitié des Inuits vivent dans des logements surpeuplés. C'est gênant et honteux pour la société québécoise. Tout comme c'est gênant et honteux que le Québec ne soit pas capable de fournir des enseignants à tous les élèves Inuits, et que les patients Inuits meurent ou subissent des complications en raison de délais inacceptables pour recevoir des soins. On peut corriger toutes ces lacunes de nos services publics au Nunavik. On doit corriger ces lacunes. Il n'y a qu'une seule façon de le faire, avec de la volonté politique et le financement qui l'accompagne. Pour que tous les élèves Inuits aient un enseignant et une éducation de meilleure qualité, pour que les patients Inuits soient mieux soignés et soignés plus souvent au Nunavik, et pour que les familles Inuites ne vivent plus dans des logements surpeuplés. C'était « C'est toujours aussi honteux », un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 15 février 2023 dans la presse.
La fabuleuse histoire d'emploi de Youssef et d'Arnaud. Un texte de Catherine Huntfield, paru le 15 janvier 2023 dans la presse. Les autistes ne s'en tirent généralement pas très bien dans les entrevues d'embauche. Dans l'histoire qui suit, les protagonistes ont décidé de faire les choses autrement. Voici l'histoire de Youssef et d'Arnaud, deux jeunes autistes de haut niveau qui cherchaient un emploi à leur goût et à la hauteur de leurs compétences. Une bibliothèque, c'est un haut lieu de lecture, de savoir, de culture. Et une bibliothèque, c'est calme, c'est propre, c'est ordonné. Les choses y sont même classées. C'est vraiment un endroit où nos jeunes se sentent bien, résume Céline Eyri, attablée dans une salle de réunion de la Grande Bibliothèque dans le quartier latin à Montréal. Céline Eyri est intervenante pour l'organisme sans but lucratif Autisme sans limite. Ces jeunes, ce sont des adultes autistes de 18 à 35 ans qui ont un point en commun. Ils ont tous un haut niveau de fonctionnement cognitif et social. Ils sont vifs d'esprit, souvent très, très vifs d'esprit, mais ils ont besoin de soutien pour développer leurs compétences et leur autonomie, ce que l'organisme leur offre. Et qui dit autonomie dit emploi. L'équipe d'Autisme sans limite voyait donc la Grande Bibliothèque comme un super employeur potentiel. Elle l'a visitée à deux reprises dans le passé et savait une chose, quand ces jeunes y allaient, la magie opérait. L'équipe de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, accepterait-elle d'offrir un stage à quelques-uns de ces jeunes pour vérifier si, oui ou non, ils feraient l'affaire comme employés? Éviter l'entrevue. Autisme sans limite préfère le stage à la traditionnelle entrevue d'embauche qui exige de bonnes aptitudes en matière d'habileté sociale et communicationnelle, ce qui n'est pas la grande force des autistes. Très peu s'en sortent bien et c'est un peu notre frustration, dit Céline Eyri. Les employeurs n'ont pas la chance de voir concrètement les compétences de nos jeunes. Arnaud Roy-Johnson, 21 ans, opine. J'ai fait une entrevue l'an passé et ça n'a pas bien été. Je ne savais pas trop quoi répondre, quoi dire. Youssef Fischer, qui a eu un diagnostic d'Asperger dans les dernières années, le constate lui aussi. Beaucoup de monde a tendance à se vendre en entrevue, mais ce n'est pas une capacité que j'ai ou que j'ai apprise, résume le jeune homme de 28 ans. Les doigts croisés, l'équipe d'Autisme sans limite a donc tenté une approche à BANQ le printemps dernier, et les astres étaient diablement bien alignés. Notre service des ressources humaines m'a contacté pour me demander si ça m'intéressait d'intégrer des stagiaires dans mon équipe, raconte Stéphanie Kerr, chef de service de l'abonnement et de l'emprunt à la Grande Bibliothèque. Sa réponse? Oui, absolument. À BANQ, dit-elle, des discussions étaient justement en cours pour voir comment aller chercher davantage de membres de la diversité. Soulignons aussi que l'organisation a beau offrir de beaux emplois syndiqués, elle n'échappe pas à la pénurie de main-d'œuvre. BANQ avait un souhait, que des intervenants d'Autisme sans limite offrent des ateliers de sensibilisation à ses employés, ce que l'organisme s'est empressé de faire. Parce que c'est aussi ça, le nœud de la guerre. Donner à l'employeur les outils pour bien communiquer avec les jeunes et pour bien utiliser leurs compétences. Les mots d'ordre, bienveillance, transparence, clarté. Ce sont des jeunes pour qui tout ce qui est implicite n'est pas bien saisi, alors il faut d'être clair, ne pas être dans les non-dits, dans les conventions sociales attendues, résume Céline Ayri, elle-même maman d'un enfant autiste. Revoir les procédures. Une employée a produit des aides-mémoires pour les futurs stagiaires en y détaillant des procédures étape par étape, photo à l'appui. L'équipe en a profité pour faire le ménage dans ses méthodes de travail, ce qui finalement a été bénéfique pour tout le monde. Le commis de bibliothèque Stéphane Courtois s'est porté volontaire pour encadrer les stagiaires avec le soutien d'une intervenante d'Autisme sans limite. Une petite voix m'a dit « Vas-y, fais-le », dit Stéphane Courtois, qui ne connaissait pas d'autiste et qui ne savait pas à quoi s'attendre. En mai, les trois nouveaux stagiaires, Youssef Fischer, Arnaud Roy-Johnson et Marc Lheureux, sont arrivés par la grande porte de la Grande Bibliothèque, prêts à apprendre le travail de commis de bibliothèque. Vous écoutez « La fabuleuse histoire d'emploi de Youssef et d'Arnaud », un texte de Catherine Antfield paru le 15 janvier 2023 dans la presse. Apprentissage et surprise. Stéphane Courtois, commis de bibliothèque, l'admet. Au départ, il était lui-même un peu stressé. Il se demandait surtout comment ses blagues seraient reçues par ses protégés, sachant que les autistes peuvent avoir de la difficulté à saisir les doubles sens. Marc Lheureux est de nature plus sérieuse, mais Stéphane Courtois a découvert en Youssef Fischer et Arnaud Roy-Johnson deux jeunes hommes rieurs. « Ça a été ma grande surprise. Je les fais rire, ils me font rire aussi, » dit-il. Ils ont commencé avec les tâches à l'extérieur du public, comme vider les bacs à la salle de tri et activer les documents réservés. Lors du passage de la presse, Youssef et Arnaud étaient justement attelés à cette tâche. Il s'agit de scanner des livres et des disques, d'y insérer une feuille selon une technique précise et de les classer par ordre alphabétique sur un chariot. Cette tâche peut paraître simple pour une personne neurotypique, mais elle a représenté des défis pour les stagiaires. Pour Arnaud, c'était une affaire de motricité fine. Il avait du mal à plier le papier selon la technique attendue. Pas de problème, Stéphane Courtois a morcelé les étapes du pliage de papier et Arnaud a fini par prendre le tour. Quant à Youssef, il avait au départ de la difficulté à voir l'ordre alphabétique dans sa tête. Au début, il utilisait une fiche. « Parce que chanter l'alphabet chaque fois, c'est long », dit Youssef en riant. Youssef et Arnaud étaient à la fois excités et stressés de commencer l'ultime étape de leur stage, le service aux usagers. Arnaud en était à sa toute première expérience de travail. Youssef, pour sa part, avait eu des expériences pas si bonnes dans le passé. « J'étais un peu inquiet, j'avais un peu peur », confie-t-il. Il avait aussi plusieurs interrogations. Quelles sont les salutations d'usage? Combien de temps faut-il parler à un usager? Youssef a pris le taureau par les cornes, il a emprunté un livre sur le service à la clientèle qui lui a appris plein de choses. Par exemple, dit-il, ce n'est pas parce que je connais une information qu'il faut nécessairement la dire à tout le monde. Il y a du monde qui la connaît déjà ou qui n'a pas nécessairement le temps de l'entendre. Avant de la donner, je leur demande s'ils la veulent. Stéphane Courtois a observé avec fierté la progression de ses protégés. Youssef a cette facilité de parler aux gens qui me surprend encore, dit-il. Arnaud aussi se débrouille très bien. Il est poli, s'entend bien avec ses collègues, observe Stéphane Courtois. Mais je ne disais pas au revoir, souligne Arnaud en riant lui aussi. Parenthèse, on aime penser qu'intérieurement, il rit aussi un peu de toutes ces conventions sociales que les personnes neurotypiques s'imposent. Fin de parenthèse. Stéphane est tombé sous le charme de ses trois stagiaires. Il songe même à s'impliquer davantage auprès des autistes, peut-être par l'entremise du bénévolat. « Ce que j'aime, c'est qu'ils ne jouent pas de game. Ils sont authentiques, » dit-il. Après leur stage de 6 semaines, Youssef, Arnaud et Marc ont remplacé des employés pour les vacances d'été. Par la suite, les disponibilités de Marc ne correspondaient pas à l'offre des blocs horaires de la grande bibliothèque, mais Arnaud, qui fait une technique en documentation, continue à travailler le week-end. Quant à Youssef, il a obtenu l'automne un poste permanent. Sa progression a été fulgurante, note Stéphanie Kerr, la chef du service. Je veux travailler ici quelques années, mais combien de temps? Je ne sais pas, dit Arnaud qui se tourne aussitôt vers Youssef. Toi, tu es là pour 40 ans? Youssef sourit et hoche la tête. Tout le monde autour de la table éclate de rire. C'est ce que j'aime à la grande bibliothèque, c'est que c'est très concret, les tâches sont précises. Ce livre, je vous le donne, vous me le redonnez, je le mets sur le rayon, raconte Youssef qui a étudié en sonorisation. Il s'est découvert un vif intérêt pour le service à la clientèle. Maintenant, je dirais que c'est ma tâche préférée, parce que ça me permet d'apprendre les nuances, de m'exposer au monde, dit Youssef, qui avait du mal à se faire des amis à l'adolescence. Les apprentissages qu'il a faits ces dernières années, notamment par l'entremise des ateliers d'autisme sans limite, l'ont fait cheminer tant sur le plan social que professionnel et amoureux, dit-il. Selon Céline Eyri, les autistes veulent avoir des interactions sociales, mais ce qui les fait hésiter, c'est qu'ils sont conscients de ne pas tout saisir. L'intuition sociale, dit-elle, ils ne l'ont pas. Ils doivent l'apprendre, la construire. Quand elle regarde Youssef et Arnaud, qui volent maintenant de leurs propres ailes à la grande bibliothèque, Céline Eyri voit deux jeunes hommes à leur place. « Je les sens confiants, simplement. » Même chose pour Stéphanie Kerr. « Chaque fois que je croise Youssef, il a une air d'aller vive et un grand sourire. Je le regarde et je me dis, voilà un employé heureux. » L'initiative fera des petits. Le service de l'abonnement et de l'emprunt souhaite désormais accueillir de nouveaux super stagiaires. D'autres services de BANQ, qui ont eu vent de cette belle intégration, se montrent aussi intéressés. « On se rencontre prochainement », dit Stéphanie Kerr, sourire aux lèvres. C'était « La fabuleuse histoire d'emploi » de Youssef et d'Arnaud, un texte de Catherine Antefield paru le 15 janvier 2023 dans la presse.
Il est temps que le Canada finance le traitement avancé du diabète, un texte d'opinion de Dylan McKay, paru le 20 décembre 2022 dans Le Nouvelliste. Dylan McKay a le diabète de type 1 et est professeur adjoint de nutrition et de maladies chroniques à l'Université du Manitoba. Il s'est écoulé 101 ans depuis qu'on a découvert que l'insuline permettait aux personnes atteintes de diabète de type 1 de survivre. Aujourd'hui, c'est aussi la meilleure époque de l'histoire pour être aux prises avec le diabète de type 1. Il faut seulement avoir les moyens de se procurer la technologie. Peu de gens au Canada ont un régime public ou privé qui couvre ou peut couvrir les frais des systèmes technologiques. Je suis l'une de ces personnes chanceuses. Avant même que je me réveille le matin, une prise de mesure de ma glycémie est effectuée et pendant que je dors, les résultats sont envoyés à mon téléphone doté d'un logiciel qui m'avertira si ma glycémie est trop élevée ou trop basse. Ce n'est pas tout. L'algorithme de la pompe à insuline en boucle fermée de mon téléphone peut changer la quantité d'insuline que la pompe me donne pour éviter que mon taux de glycémie se situe hors des limites acceptables. Le plus beau de tout ça, c'est que je peux continuer de dormir pendant tout le processus et me réveiller frais et dispo. Cette technologie est rendue possible grâce à la mise au point des systèmes de surveillance du glucose en continu SGC. Le SGC est un dispositif portable qui vérifie la glycémie de la personne à des intervalles de quelques minutes, jour et nuit. Cette technologie a changé ma vie et celle de beaucoup d'autres personnes atteintes de diabète de type 1 et leurs soignants. Avant la venue des SGC, il fallait mesurer sa glycémie en se piquant le bout d'un doigt avec une aiguille métallique pointue pour obtenir une goutte de sang que l'on déposait sur la bandelette d'un appareil appelé glucomètre. Personne n'aime ça, parce que le bout des doigts est très sensible et qu'au final, on a mal au bout des doigts toute la journée, tous les jours. On a aussi tendance à vérifier sa glycémie seulement quelques fois par jour. La personne atteinte de diabète de type 1 qui prend en charge sa glycémie agit un peu comme le capitaine d'un gros paquebot. Elle doit faire des modifications à sa trajectoire bien avant que ce soit nécessaire, sinon c'est la catastrophe. L'utilisation du glucomètre équivaut en fait à manœuvrer le paquebot les yeux fermés. Le système de surveillance du glucose en continu nous ouvre les yeux. Il est très important de connaître son taux de glycémie et de savoir s'il est à la hausse ou à la baisse, parce que bien que l'insuline soit un médicament fantastique qui nous maintient en vie, c'est une substance incroyablement dangereuse. Chaque fois qu'une personne prend de l'insuline, elle risque une chute de glycémie ou hypoglycémie, qui est une cause fréquente des visites à l'urgence des personnes qui ont un diabète de type 1. Non traitées, elles peuvent en mourir. L'utilisation du SGC s'est révélée très efficace pour réduire la période pendant laquelle la glycémie est faible. L'opposé de l'hypoglycémie est l'hyperglycémie, un état qui, à long terme, est directement lié à un risque accru de crise cardiaque ou d'insuffisance rénale. Le SGC est également utile dans ce cas-ci, puisqu'il augmente la période pendant laquelle le taux de glycémie de la personne ayant un diabète de type 1 reste dans les limites appropriées. Malheureusement, ce dispositif coûte entre 3 000 et 6 000 $ par année. La plupart des régimes d'assurance maladie et d'assurance médicaments provinciaux et territoriaux ne couvrent pas ces frais. Les rares qui le font appliquent souvent des conditions relatives à l'âge. Le Manitoba, par exemple, paie les frais du SGC, mais seulement aux personnes de moins de 25 ans. Cependant, les personnes qui ont un diabète de type 1 vieillissent elles aussi. Que sont-elles censées faire pendant le reste de leur vie? Bon nombre de régimes d'assurance privée ne couvrent pas non plus les frais de SGC. Je travaille à temps plein comme professeur d'université et le système n'est pas couvert par notre régime. Heureusement, j'ai la chance de pouvoir le payer de ma poche. Sans couverture, le SGC coûte simplement trop cher pour la plupart des Canadiens atteints de diabète de type 1. À l'heure actuelle, le Yukon est le seul endroit au Canada où les systèmes de surveillance du glucose en continu sont couverts. Toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 bénéficient de cette couverture. Et je parie que la province voit une diminution des visites aux urgences, une baisse des coûts à long terme pour le soin des personnes atteintes de diabète de type 1 et des gens plus heureux, plus en santé et plus productifs. Le régime d'assurance médicaments promis depuis longtemps par le gouvernement fédéral n'est encore que des paroles en l'air, puisque rien ne garantit que le SGC sera inclus dans le régime si jamais il est mis sur pied. En attendant, le reste du Canada doit suivre l'exemple du Yukon. Si les provinces et les territoires travaillaient ensemble, les coûts des SGC diminueraient et tout le monde au Canada en profiterait. C'était « Il est temps que le Canada finance le traitement avancé du diabète », un texte d'opinion de Dylan McKay, paru le 20 décembre 2022 dans le Nouvelliste.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Jocelyne Langevin à la lecture, Francine Thériault et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.